Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet de Région, un magazine réalisé cette semaine par Delta FM Terre de Camargue. Au sommaire de ce Carnet de Région, Tchernobyl, 30 ans après, le bilan de la contamination radioactive dans le Gard et l'Hérault, un sujet de Radio Escapade. Et Radio Alliance Plus nous emmènera à Alès visiter le musée PAB. Il y a 30 ans, une réaction en chaîne entraînait la fusion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Poussée par les vents, des éléments radioactifs ont contaminé une grande partie de l'atmosphère et des sols d'Europe, jusque dans notre région. La contamination de Tchernobyl y persiste aujourd'hui, en plus de celle des sites nucléaires de la vallée du Rhône. C'est ce qu'explique Bruno Charéron de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, plus connue sous l'acronyme de CRIRAD, une association fondée dès la fin avril 86, alors qu'en France résidait une opacité sur l'impact de Tchernobyl.
En Allemagne, en Italie, il était recommandé aux populations de ne pas consommer certaines denrées contaminées. En traversant la frontière, en France, on n'avait aucune information. Donc ces citoyens ont mis quelques semaines à créer un laboratoire indépendant, acheter du matériel et petit à petit embaucher des scientifiques pour justement être en capacité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de faire des contrôles de radioactivité dans l'environnement, mais indépendamment de l'État, évidemment, et des industriels. 30 ans plus tard, on a aujourd'hui une équipe de 15 salariés et un laboratoire qui est agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, c'est-à-dire que ce service reconnaît la qualité des analyses de radioactivité que nous faisons. Mais nous sommes une association et une grande partie de nos moyens d'action vient des cotisations de nos adhérents et des dons de nos adhérents qui nous permettent de faire ce travail indépendant.
Est-ce que 30 ans après, on peut dire que la catastrophe est terminée ?
Alors 30 ans après, la catastrophe n'est pas terminée à plusieurs égards. D'abord, elle n'est pas terminée évidemment là-bas, pour les populations qui vivent sur les territoires contaminés, au Bélarus, en Ukraine, en Russie. Elle n'est pas terminée pour les travailleurs qui ont à gérer le sarcophage. Vous savez que 30 ans après, le nouveau sarcophage n'est toujours pas fini de construire. La matière hautement radioactive qui est à l'intérieur du réacteur numéro 4 n'est pas parfaitement sécurisée et personne ne sait combien il faudra de décennies pour vraiment sécuriser ce réacteur. Et la catastrophe n'est pas finie non plus en France, quelque part, dans le sens où on a encore dans les sols, dans certaines denrées, champignons, gibiers, une contamination, en particulier par le césium radioactif qui a été déposé par Tchernobyl.
Et du point de vue des analyses donc que vous avez pu faire et que vous continuez à faire aujourd'hui, quelles sont les régions qui sont les plus impactées en France par cette catastrophe de Tchernobyl ?
Les régions les plus impactées en France, c'est un large quart est qui va de la Corse jusqu'à l'Alsace, en passant par une partie de la région Rhône-Alpes, par le Jura, par les Vosges. Donc ça, ce sont vraiment les zones qui ont reçu les retombées les plus importantes. Mais la région qui vous intéresse, les Cévennes, a également été soumise évidemment aux retombées de Tchernobyl et avant cela aux retombées des essais nucléaires militaires des années 50-60. L'atlas de contamination de la France et de l'Europe que nous avons produit au début des années 2000 donnait par exemple pour votre région une contamination en césium-137 des sols qui allait de 1700 becquerels par mètre carré dans la région de Montpellier à 19500 becquerels par mètre carré dans la région, disons, au sud du Mont Aigoual. Donc on est dans une région qui a été contaminée et dont il reste encore dans les sols l'impact de ces contaminations du passé. Et si on avait fait ces mesures avant les années 40, on aurait trouvé zéro becquerel par mètre carré. Donc c'est bien une contamination liée aux activités humaines, en l'occurrence les explosions atomiques dans l'atmosphère et les retombées de Tchernobyl principalement. Maintenant, on reste évidemment, heureusement, aujourd'hui dans des très faibles doses, donc l'impact résiduel très faible, mais il n'est pas nul. Et en particulier, dans certaines denrées, on vient de terminer une étude sur les champignons en Rhône-Alpes, par exemple, dans certains champignons, on trouve encore aujourd'hui des niveaux de contamination en césium-137 qui ne sont pas négligeables pour de gros consommateurs de certaines espèces. Les champignons ne sont pas tous équivalents. Les champignons des prés, par exemple, mousseron, coulmel, sont en général beaucoup moins contaminé que d'autres espèces comme le bolédé, la chanterelle en tube, les petits gris par exemple.
Que dire de l'impact de l'activité des centrales qui se trouvent en France et les plus proches de chez nous sont dans la vallée du Rhône? Ça vous concerne aussi, j'imagine, pour vous qui vous trouvez en région Rhône-Alpes?
Les installations nucléaires sont autorisées à effectuer des rejets radioactifs en routine et elles en effectuent dans l'atmosphère et en milieu liquide, dans le Rhône par exemple. Pour les zones qui sont les plus proches des Cévennes, l'une des installations qui rejette le plus de radioactivité dans l'atmosphère, c'est le site nucléaire de Marcoule, qui on avait démontré il y a maintenant une vingtaine d'années la contamination en particulier par le tritium des eaux souterraines autour de Marcoule, par l'iode radioactif, l'iode 129, des mousses terrestres autour de Marcoule, et on avait constaté également une contamination en plutonium à cause des rejets liquides dans le Rhône de Marcoule jusque en Camargue.
Des propos recueillis par Pierre-Isnard Dupuis de Radio Escapade.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le musée Pab d'Alès propose depuis son ouverture en 1989 des expositions temporaires. Et si le noyau originel est la donation en 86 des œuvres de Pierre-André Benoît, artiste et éditeur à Alès, une vente aux enchères exceptionnelle en février dernier a permis d'agrandir le fonds et jusqu'au 19 juin, il est possible de voir les dernières acquisitions, donc inédites. Flavie Le Plapou, adjointe au conservateur, nous les présente, ainsi que la mission toujours renouvelée du musée envers tous les publics.
Oui, alors le musée Pab, c'est vraiment une grande chance pour la ville d'Alès, puisqu'elle est liée à la figure d'un Alésien célèbre, Pierre-André Benoît, qui était une figure vraiment assez atypique et passionnante, puisqu'il était lui-même artiste. Il était poète, il peignait, il faisait de la sculpture, et il est surtout connu pour son activité d'éditeur de livres d'artistes. Et pour situer un petit peu le personnage, il a travaillé avec René Char énormément, et il faisait illustrer ses poèmes et les poètes avec lesquels il travaillait par des petits artistes de la trompe de Picasso, de Miro, oui, de Picabia,
secondaire,
des choses très modestes somme toute. Voilà, donc de très très belles histoires d'amitié et de très belles collaborations artistiques tout au long de la seconde moitié du XXe siècle.
C'est vrai que ce musée a un côté très intime, hein. Vous tenez justement, c'est une des directions, de garder ce côté amical, ce côté un peu intimiste.
Et oui, puisque Pierre-André Benoît a participé à la fondation du musée et on tient à garder cet esprit-là dans lequel il l'a fondé. En fait, il a tenu à ce que le musée ressemble à la maison dans laquelle lui-même vivait, qui est à Rivière de Terrargues, qu'il appelait le château moderne, et qui ressemble effectivement au musée, même dans les aménagements intérieurs, il y a un côté un peu dédoublement de l'espace. Il a donné aussi un petit peu de mobilier en plus des œuvres pour que effectivement on se retrouve un petit peu comme dans sa maison. Alors il y a à la fois l'idée qu'on accueille le visiteur et que peut-être Pierre-André Benoît voulait aussi une sorte de cocon autour de ses œuvres, qu'elle-même ne soit pas trop dépaysée, puisqu'il y tenait énormément. Le cœur de l'activité du musée, c'est vraiment cette collection de Pierre-André Benoît qui a été le noyau originel. Il a fait la donation en 86, le musée a ouvert en 89, donc il a vraiment été là aussi au cœur de cet aménagement. Et effectivement, Pab est décédé en 93, donc il a accompagné la naissance et puis le début de vie du musée. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on maintient, qu'on garde, mais sans nous enfermer. Bien évidemment, c'est pas un carcan et c'est pas une espèce d'ombre qui plane au-dessus de nous. Au contraire, c'est un esprit vivant, oui. C'est vraiment ce que souhaitait Pab et c'est vraiment ce qu'on essaye de continuer à insuffler.
Alors je rappelle aussi que le musée Pab s'intitule Musée Bibliothèque. Oui, c'est important.
Tout à fait. Puisque Pierre-André Benoît a donné sa collection d'œuvres d'art à la ville d'Alès, mais sa collection de livres, donc à la fois ceux qu'il avait édités et ceux d'autres éditeurs qu'il avait collectionnés, à la Bibliothèque nationale de France. Mais on a une grande part de cette production de livres qui est déposée chez nous au musée depuis le début. Et donc ces dépôts constituent effectivement un des points de pivot de notre travail. Et effectivement, il y a aussi l'espace du deuxième étage dont on reparlera, qui a bien été conçu par Pierre-André Benoît comme un espace pour le livre. Et puis il y a vraiment une cohérence et c'est cette idée-là qu'on essaye de maintenir. Alors effectivement, le fonds de la collection Pab qui est venu compléter notre fonds originel est présenté au rez-de-chaussée. Il y a eu effectivement les fruits de cette vente et ce qu'on a acheté, qui ont ensuite été complétés par des dons, là aussi très important, de la famille de Pave qui est venue compléter ce qu'on avait pu acheter. Donc là, c'est vraiment une sorte de symbiose qui fait qu'on recomplète et qu'on redécouvre des artistes comme Pierre Alechinski, Jean Harpe, Picabia, donc autant de grands noms qui nous ont toujours animé la vie du musée, et là qui entrent de nouveau par de nouvelles œuvres, de nouvelles choses importantes qui là occupent l'ensemble du rez-de-chaussée. Donc un très bel ensemble où là on est au cœur vraiment de la collection de Pab et de cette idée de complémentarité. On peut aussi faire un premier tour et puis revenir vers des choses qu'on a plus aimées que d'autres. Il faut aussi être complètement décomplexé vis-à-vis de ça. Hein. Et c'est aussi le travail qu'on a vis-à-vis des scolaires. On a ce premier discours où on décomplexe, où on dit mais vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais par contre il ne faut pas s'arrêter là, il faut dire, il faut verbaliser, il faut exprimer, parce que sinon c'est pas très intéressant. Et là, en général, le regard qu'ont les élèves, quel que soit leur âge d'ailleurs, des plus petits aux plus grands, passer ce premier effet de c'est difficile, je comprends pas, voire j'aurais pu le faire, parce que c'est souvent le discours qu'on a sur l'art moderne et contemporain et l'art abstrait en particulier, et bien dépasser ça, on a un travail de verbalisation et du coup aussi de travail sur les émotion, le ressenti, qui fait comprendre comment on peut, c'est une des portes d'entrée, comment on peut regarder une œuvre d'art.
On a l'impression d'être libre dans notre déambulation, mais en fait, on nous guide.
Bien évidemment, il y a un art de scénographie, le mot serait un peu grand, mais il y a un art de la mise en exposition. Mais tout comme les artistes trichent avec notre regard aussi, on a l'impression qu'on est libre devant une œuvre, mais pas du tout. Le regard est toujours guidé, que ce soit par une couleur, une onde de force, et l'art d'exposer, c'est aussi ça, c'est aussi l'art de guider le regard. Effectivement, on n'est pas si libre que ça, mais c'est une douce contrainte.
Oui.
Un reportage signé Sylviane Vichegros-Magnette, Radio Alliance Plus. Et c'est déjà la fin de ce Carnet de Région, un magazine préparé par les radios associatives et non commerciales du Languedoc Roussillon, sous la rédaction en chef ce mois-ci de Delta FM. À la semaine prochaine pour un nouveau magazine.
Carnet de Région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc Roussillon.